RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr avec notre Dream Team. On a fait des trades cette semaine. C'est la thématique de ce podcast puisque Sacha Alix est arrivé en provenance de Minnesota. Salut Sacha.
Salut tout le monde.
Et on a envoyé Alex Biggerstaff à Minnesota. On s'en est enfin débarrassé. Fred Weiss et Stephen Brun, les piliers.
Salut.
Nous,
on a une clause dans le contrat. Il faut demander à la permission avant de trader.
Tu vas demander un trade un jour peut-être pour partir sur Bean ou ailleurs?
Non, ESPN peut-être.
Sur ESPN, ah ouais. On récupérerait qui nous?
Charles
Barkley?
Non, Shaquille O'Neal.
Ah, c'est bien, je prends.
Tu prends.
Un petit podcast en France avec Shaquille O'Neal, ça pourrait marcher.
Par contre, il faut parler anglais.
Yes, no problem, sir.
Et si je reste là, ça fera du poids quand même.
Et après, il faut l'inviter au resto.
Là, il y aura des filles. C'est pas moi qui règle l'addition. Hein. Alors, c'est un spécial trade parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et on va évidemment essayer de déchiffrer tout ça. Avec Durant, les Suns deviennent-ils favoris? C'est la première question qu'on va se poser. Qui sont les gagnants et les perdants de ces trades? Les Lakers, par exemple, semblent avoir retrouvé un petit peu de peps. Et puis, dans la partie historique, vous allez me dire quel est le transfert en cours de saison, le plus marquant de l'histoire de la NBA. Alors, ne me parlez pas d'un joueur obscur. Hein. Là, je veux du Will Chamberlain, du Shaquille O'Neal. Hein.
En fait, tu me tournes toujours dessus, parce qu'à chaque fois que je choisis un gars, c'est pas le bon.
Je sais pas, moi. Alors, un truc qui a marqué l'histoire. Voilà.
Sacha a pris le transfert de Rajon Rondo au match.
Ouais, super.
Évidemment.
Juste avant de démarrer, je vous rappelle aussi qu'il y a un épisode bonus cette semaine. Vous avez droit à vos deux basket time parce qu'on va faire un spécial LeBron James et son record de points, bien entendu. Vous allez sur rmc.fr et vous téléchargez tout ça. Rendez-vous tout à l'heure pour un quiz spécial trade. Mais on démarre tout de suite avec Kevin Durant et les Suns.
Breaking news, Kevin Durant is headed to Phoenix. After the Kyrie Irving trade last week, the conversations between Kevin Durant and Joe Tsai, the owner in Brooklyn, Sean Marks, their GM, you know, they started to move toward the idea that if there was a deal that could be done in Phoenix, that Kevin Durant would certainly be open to it and I think even eager for it. And Matt Ishbia, the new owner in Phoenix, who just was approved last week, he wanted to get Kevin Durant. They tried to do this deal without Mikal Bridges. That wasn't going to happen.
Alors, les fans de NBA ont découvert le quatrième trade de Kevin Durant dans sa carrière. À 34 ans, donc, il quitte les Nets pour les Suns. Et quand Durant arrive quelque part, ça change beaucoup de choses parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et qu'il a déjà gagné. Alors, en plus de ça, il arrive à Phoenix, qui était quand même la meilleure équipe de la saison régulière l'an dernier. Avec Durant, les Suns sont-ils désormais favoris? On va faire le détail de ce trade avec Sacha parce que s'il récupère Durant, forcément, ils perdent aussi des forces vives, Sacha.
Ouais, et on l'entendait dans le jingle, l'objectif de Phoenix, c'était de surtout pas perdre Mikal Bridges, qui est leur spécialiste défensif, qui vient compléter le 5 de départ, qui est, je pense, une pierre angulaire de leur collectif. Ils ont été obligés de le faire. Ils ont aussi lâché Cam Johnson, qui est un joueur qu'on retrouve en sortie de banc, qui apporte pas mal de points. 4 premiers tours de draft et un swap de premier pick en 2028. En gros, je trouve que c'est un moindre mal pour ce qui a été envoyé parce que c'est un joueur de banc et un titulaire qui sera sans doute remplacé par Kevin Durant. Et bah, c'est de l'opportunisme parce qu'on sait qu'il manquait quelque chose à Phoenix pour potentiellement aller au titre. Il y avait ce plafond de verre. Et je trouvais qu'ils étaient un petit peu similaires à ce qu'on retrouvait du côté de Toronto dans la conférence Est pendant pas mal d'années, c'est-à-dire toujours au top. Mais dès qu'il faut aller gagner le titre, c'est un petit peu plus compliqué.
Explique-moi un truc là, parce que moi je connais pas la joueur. Quelle est la différence entre 4 tours de draft et un swap de premier tour? C'est ça que t'as dit?
Ouais, swap de premier pick en 2028. Bah alors ça peut être sur plusieurs conditions. J'ai pas tous les détails et ça peut encore se ficeler et être modifié au cours des années. Mais en gros, selon la position qu'aurait le pick de draft 2028 de Phoenix, il pourrait potentiellement revenir ou à Phoenix ou à Brooklyn ou alors s'intervertir.
C'est-à-dire qu'ils choisiront en 2028
en fonction du ranking du pick, en fait. Si par exemple, c'est un pick qui est entre 1 et 15, il va à Brooklyn. Voilà. Et si c'est entre 15 et 30, il reste.
Quoi qu'il arrive, il n'est pas pour eux, quoi.
Si, il peut rester. Ben il si. Peut rester.
En fait, ah, il peut rester à Phoenix, oui. Il est bas.
Mais en fait, oui. Il n'a pas le droit de perdre tous les ans, de donner des pics tous les ans. Il faut qu'il y ait une alternance. Donc c'est pour ça
que là, il renonce à 5 premiers choix pendant 5 ans. Phoenix,
c'est ça. Après,
c'est une équipe, non
Après l'équipe qu'ils ont construite, ils vont pas être trop logiquement.
Après, Pierrot, c'est une équipe qui est censée être en haut. Donc, les premiers tours de draft, est-ce que ça va être leur importance s'ils draftent en 28e ou en 29e
ouais, c'est pas du court terme en sport
non,
collectif.
Surtout quand Chris Paul a 38 barreaux et que KD 34 a 30,
pour KD, 4. C'est très, très risqué, il me semble, non à moyen terme, non
bah, à moyen terme, oui, mais je pense qu'à court terme, ils ont un objectif très, très, très concret.
On est sur du one shot.
Alors, sur le court terme, est-ce qu'ils deviennent, selon vous, favoris, Fred?
Franchement, pas loin. Alors, j'ai envie de dire oui, mais il faut quand même voir comment ça va se mettre en place, etc.
Pour l'instant, KD n'a pas joué. Hein.
Sur le principe, c'est une équipe avec ces trois joueurs majeurs qui a réussi à faire une finale NBA il n'y a pas si longtemps que ça. Et t'ajoutes le meilleur attaquant de l'histoire, peut-être. Donc, forcément, ça devient prétendant au titre, oui.
Steve.
Écoute, au premier abord, on pourrait penser qu'ils sont injouables. Ça, c'est le regard brut quand tu regardes les noms sur le papier. Maintenant, moi,
carrément injouable, tu dis, toi ?
Oui, injouable, parce qu'ils ont tout au magasin. Ils ont un big man qui s'appelle DeAndre Ayton et Kevin Durant n'a jamais joué, il me semble, avec un big man de la sorte, aussi fort sur du pick and dive et aussi bon avec des mains en or comme ça. Il n'a jamais eu ça en magasin, que ce soit à Brooklyn, aux Warriors ou à OKC. Ils ont Devin Booker qui met des pantons. Ils ont Chris Paul qui est un vrai maître à jouer. Après, moi, j'ai des doutes sur le temps qu'ils vont avoir pour mettre en place quelque chose. Parce que KD joue pas. KD, bon, on l'a vu, il est en phase de reprise.
C'est retour après le All-Star break.
Ouais, il est en phase de reprise. On l'a vu faire un petit workout hier avec Jared Jack. Ça avait l'air de plutôt bien se passer. Mais après, le All-Star break, ils ont que 22 matchs. 22 matchs pour mettre quelque chose en place. Alors, moi, on a beau me dire, bon, les forts joueurs ensemble, normalement, ça doit matcher. Mais à un moment donné, il y a une espèce de collectif à créer. Et on l'a vu avec Brooklyn l'année dernière, où on disait, ah, mais bon, les mecs, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, mais quand ils vont jouer ensemble, ça va le faire. Bon, ils ont pris 4-0 au premier tour des playoffs.
C'est pas exactement pareil, parce que là, c'est Kevin Durant qui s'incorpore à une équipe, alors que les autres mecs n'avaient jamais joué ensemble, vraiment. Là, t'as vraiment quand même une base qui se connaît. T'as quand même Devin Booker, qui va donner les ballons au bon moment.
C'est pas anodin qui arrive. Kevin Durant, c'est 18 ou 20 tiers sur un match. C'est-à-dire que Booker va devoir s'adapter à Kevin Durant, Chris Paul va devoir s'adapter.
Oui, mais les trois se connaissent déjà. Tu vois ce que je veux dire ? T'as Tucker Port, un super joueur. Oui, ça va pas être facile. Et effectivement, il faut un peu de temps. Je suis d'accord avec toi. On sait pas si ça sera suffisant en termes de temps. Mais tu peux pas comparer une équipe qui est déjà construite, qui intègre un joueur, plutôt que plusieurs joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. C'est exactement pareil.
Mais je suis pas aussi affolé qu'on peut l'être. Je pense que ça va être bien, mais je pense qu'au niveau du vécu collectif, à un moment donné en play-off, moi, tu vois, je préfère des mecs comme les Bucks, des équipes comme les Bucks ou les Celtics, qui ont une vraie base collective et qui ont fait une saison entière ensemble, sur les moments importants, sur les possessions importantes à jouer. Je préfère des équipes qui ont des vécus collectifs plutôt que un truc qui a été rajouté comme ça et aussi fort que peut être Kevin Durant.
Qu'est-ce qu'en pense Sacha ? Est-ce qu'ils deviennent les favoris pour le titre ?
C'est très compliqué comme question. Moi, je suis persuadé que la prise avec les Suns, elle peut très bien se faire pour Kevin Durant et très rapidement, parce que le souvenir que j'ai de son intégration à Golden State fait que immédiatement, en fait, il était scoreur désigné. Il avait juste besoin de marquer des paniers et les autres faisaient le jeu collectif autour. Donc, je pense que ça peut être un petit peu une réplique de ça. Après, à l'Ouest, c'est tellement ouvert. Il y a eu beaucoup d'autres trades. On en parlera sans doute après. Les cartes sont un petit peu rabattues de manière différente.
Rebattues, je t'ai dit déjà, rebattues, pas rabattues.
Je sais, c'est pour ça que je t'ai regardé en le disant. Et je suis plutôt d'accord avec Steve. Pour le coup, pour moi, les vrais favoris sont plutôt à l'Est avec ces équipes qui sont construites sur plusieurs années et qui sont vraiment dominantes. Les Bucks, les Celtics, pour moi, c'est plus eux les vrais favoris.
Donc pas grand monde ici pour donner le statut de favori.
Parce qu'à l'Ouest, je pense qu'ils ont quand même upgradé sacrément et que d'un seul coup, ils deviennent favoris à l'Ouest.
Mais
c'est vrai que l'Est, c'est...
Donc toi, tu les vois finalistes, peut-être finaliste. Battus en finale, peut-être.
Honnêtement, ça va être dur en finale.
Après quand tu vois sur l'équipe, c'est l'équipe la plus effrayante à l'Ouest parce que tu t'aperçois que Denver... qui fait son en mode pilotage automatique sur la saison régulière, qui a une équipe très solide parce qu'on a oublié qu'ils ont quand même Jamal Murray, qu'ils ont Porter Junior, qu'ils ont Aaron Gordon qui joue à un niveau auquel il n'a jamais joué depuis le début.
Il aurait presque prétendu être
de sa carrière et Jokic. Et cette équipe-là fait pas de bruit. Et après, les
Grizzlies. Ils ont récupéré Reggie Jackson et Thomas Bryant en backup de Jokic, c'est pas mal.
Les Grizzlies qui font une belle saison, et ben bon, c'est une bonne équipe, mais articulée autour de Jamal Murray. Les Kings qui sont surprenants aussi, mais c'est pas une équipe ultra effrayante. effrayante. Donc Phoenix a vraiment de quoi se frayer un chemin.
Après, est-ce qu'on est déjà en mesure de mesurer ce qu'ils ont perdu avec le départ de Michael Bridges notamment?
Moi, je pense qu'ils ont perdu un petit peu en profondeur de banc, même si hier, ils ont signé Terrence Ross qui a fait un buyout avec Orlando, qui est un très bon scoreur. Et c'est un mec qui, en sortie de banc, va pouvoir mettre des puntos, surtout quand les défenses vont être accaparées par KD et Devin Booker. Maintenant, on ne se rend pas compte de ce qu'était Michael Bridges, qui était défensivement peut-être un des top 3 défenseurs sur les postes extérieurs, bugne à bugne. KD est un bon défenseur parce qu'il a des longs segments, il est très bon sur les aides, sur les deuxièmes rideaux, sur combler les espaces avec ses longs bras, mais ce n'est pas un énorme défenseur sur du 1 contre 1. Et Michael Bridges, c'était la force défensive de cette équipe des Suns. Et Cam Johnson, qu'on ne parle pas beaucoup, en cumulé, ils ont perdu 32 pions. Hein. Bridges plus Cam Johnson à 2, c'est 32 pions, 9 rebonds. Donc c'était des garçons qui étaient appréciés aussi du vestiaire. On dit André Ayton a des mots en disant « Ouais, c'était mes frères à la vie », tout ça. Donc il y a aussi ça, ce côté-là à digérer, voir partir deux mecs avec qui tu vis depuis 3-4 ans.
Il y a aussi ça à digérer. Parfois, on a l'impression que les GM sont complètement déconnectés de ça, qu'ils sont dans leur tour d'ivoire à jouer à Basket Manager.
Il vient juste d'arriver. Il y a un coup énorme à faire. Il est obligé de le faire.
D'accord,
pour moi, il est obligé de le faire.
D'accord, mais quand tu vois les réactions des joueurs, moi je pense que c'est très très risqué parce que l'osmose c'est pas quelque chose qui s'invente.
C'est trop important l'osmose dans une équipe, Fred.
Après, il y a Kevin Durant, le mec qui vient d'arriver, il prend les trucs, tu peux dire ah non, Kevin Durant moyen.
Ouais, je suis d'accord. On se rappelle quand à Toronto avait trade DeMar DeRozan, tout le monde était super triste, c'était un joueur emblématique. Bon, après c'est peut-être pas le même calibre, etc. Mais derrière ça a amené des belles choses aussi pour les Raptors.
Alors ça c'est pour les Suns, donc que vous ne voyez pas, si j'ai bien compris, comme les grands favoris, même si ça devient du très solide.
Ça fait un raccourci là, de ce qu'on a dit quand même.
Non, les grands favoris, vous m'avez dit non.
Ah, pour le titre. Pour le titre.
À l'ouest, pour moi, c'est les grands favoris. Oui.
Alors maintenant, nous allons parler des autres parce qu'il y a eu d'autres transferts très intéressants. C'est un Basket Time spécial trade deadline.
All right, it's about that time of year, another trade deadline recap. Which teams won the deadline? Which teams lost? Which teams are, we're still unsure and waiting to see how it goes. The Los Angeles Lakers, massive winner. The Brooklyn Nets, massive loser. The Utah Jazz, loser. The Toronto Raptors, I don't know. The Warriors and Clippers, losers. I feel weird saying that teams that don't make any moves are losers.
Alors, qui sont les gagnants et les perdants de ces transferts? Ça a bougé aux Suns, mais bien sûr aussi à Dallas, à Brooklyn, aux Lakers, à Denver. Sacha, tu vas nous rappeler tout ça avec les principaux mouvements.
Ouais, les plus gros mouvements, c'est clairement du côté des Lakers. On a fait des trades dans tous les sens. On pouvait avoir le cœur à la fête. Il y en a qui ont célébré, puis finalement, ils ne sont pas restés très très longtemps. C'est ça qui est assez amusant. Et c'est des acquisitions qui sont intéressantes. Il y a le retour de D'Angelo Russell aux Lakers, lui qui avait été transféré aux Nets, et puis après qui s'est retrouvé du côté de Minnesota. Avec Malik Beasley, qui est un joueur qui a eu des soucis, mais qui était plutôt productif du côté de Minnesota également. Jared Vanderbilt, qui était une révélation aussi, qui fait déjà des bons matchs. Les Lakers, ils ont aussi récupéré Mo Bamba, qui était un prospect ultra intéressant qu'on avait récupéré du côté d'Orlando, un profil grand, plutôt athlétique, qui se déplace plutôt bien et qui peut étirer le jeu.
Il se débarrasse surtout de Russell Westbrook, du coup.
C'est ça qui est assez étonnant, parce qu'il a été beaucoup défendu, on pensait avoir trouvé son rôle, cette sortie de banc, quelque chose qui lui était bénéfique, sur lequel il était productif. Il s'est retrouvé trade à Utah, il risque d'être coupé. On parle beaucoup de Russell Westbrook qui pourrait rejoindre les Clippers, là ce serait quand même assez insensé. Et la rivalité de Los Angeles, pas sûr qu'on la retrouve en playoff, mais en tout cas ça pourra donner des beaux matchs. Après voilà, Brooklyn a récupéré Spencer Dinwiddie. En fait c'est un peu la thématique des retours à la maison, il y a John Wall qui retourne à Houston, mais c'est pas sa première maison, et il y a eu beaucoup de trades dans ce sens-là. Pour moi, il y a un choix qui a été aussi très intéressant, c'est l'arrivée de Jay Crowder à Milwaukee. Je pense que ça renforce encore une fois une équipe qui était déjà favorite, et c'est un profil qui a montré qu'il pouvait apporter en play-off. Après, je sais pas si vous, il y a d'autres transferts qui vous ont marqué. On peut parler de Sadiq Bey qui arrive à Atlanta, c'était un prospect de Détroit qui était assez intéressant. Golden State qui désavoue son deuxième pick de draft en transférant James Wiseman. Enfin, il y a beaucoup de moves.
Après, les Warriors, ils font ça.
James Wiseman qui est parti où, du coup?
Détroit.
À Détroit. Après, les Warriors, ils ont fait ça économiser de l'argent sur la luxury tax, donc ils économisent beaucoup avec le départ de James Wiseman. Maintenant, s'il faut.
Ouais, mais c'est quand même un désaveu de ce tour de draft.
Oui, ça n'a pas marché. Après, ils récupèrent Gary Payton de Second, qui avait été déterminant pour le titre la saison dernière, mais qui est blessé apparemment en provenance de Portland. Moi, les équipes qui sont renforcées, Alors Lakers, c'est indéniable. Déjà, faire partir Russell Westbrook, déjà, c'est un renfort en soi. C'est un bien fou dans le vestiaire. Et même problématique que pour les Suns, cette équipe des Lakers, elle est très bien. Maintenant, elle est très bien articulée. Sauf qu'il n'y a plus le temps, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a plus le temps. Ils sont 13e à l'Ouest. Ils ont 3 matchs de retard sur la dernière équipe qualifiée au play-in, Portland, qu'ils ont joué là, dans la nuit de lundi à mardi. Et ils ont perdu. Et surtout, que fait LeBron James ? Tu as battu ton record, bravo mon grand. Mais il y a urgence de victoire. Alors sûrement qu'il a un bobo à la cheville. Mais oh, il faut jouer. Il n'a pas joué depuis son record. Il n'a pas joué un match. Il y a urgence de victoire.
S'il ne joue pas, il ne va pas jouer longtemps. Hein.
Il reste 20 matchs après le All-Star break. Enfin, je sais pas ce que font les Lakers. Après, Pelinka fait du bon boulot parce qu'il n'a pas perdu grand-chose. Mais il y a une équipe qui, pour moi, il y a deux équipes qui sont renforcées avec un seul joueur. Il l'a dit, c'est Jay Crowder qui va prendre un peu ce qu'était PJ Tucker à l'époque quand les Bucks sont champions. Ils avaient besoin d'un mec comme ça. Et mine de rien, Boston, ils font venir Mac Muscala. Ça parle peut-être à personne. C'est un grand blanc de 2-10 qui tire à 3 points et en backup de Al Horford. Je pense que c'est un très bon ajout pour deux équipes qui étaient déjà bien en place.
Je vous rappelle que vous avez un bonus track cette semaine si vous aimez le basket. Et si vous aimez basket Time, un spécial sur le record de LeBron James. Donc oui pour les Lakers, mais le temps presse.
Exactement.
Et pour les autres, donc peut-être Dallas quand même. Va falloir que ça se mette en place.
Oui,
mais bon,
que ça se mette en place. Après les deux joueurs savent jouer ensemble, ça, j'avais pas de doute.
Ils vont être sur le marché des buyouts aussi un peu. J'imagine Dallas parce que ça va être un peu court.
Ils ont signé Justin Holiday, hein, qui était à Indiana, qui est un mec qui peut mettre dedans. Maintenant ils étaient sur Terrence Ross, mais Terrence Ross a fait le choix de, il s'est dit bon la bagouze elle est peut-être plus abordable à Phoenix que.
Et il a fait le choix de KD
à Dallas et oui. Après, on n'a pas parlé des Clippers.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est l'équipe qui me plaît beaucoup.
Pourquoi? Alors
ils ont pris Plumlee déjà. Parce qu'à l'intérieur, Zubac, ça paraît un peu léger.
Plumlee, c'est très bien.
Et c'est plutôt pas mal en backup de Zubac.
Et puis, ils ont récupéré Bones Island, qui est un peu un meneur foufou qui était à Denver. Mais surtout, ils ont fait revenir Eric Gordon, qui pour moi, c'est un très bon choix. Eric Gordon qui a fait pas mal de temps du côté des Clippers et qui, en sortie de banc, a encore du jus et encore des choses à mettre.
De sortir du marasme de Houston, surtout.
Exactement.
Mais voilà, je me souviens, en début de saison, quand on en parlait des Clippers, bon, qui étaient vos favoris, mais bon, on sait aussi pourquoi ça tarde à se mettre en place, il n'y a pas de souci, mais on avait présenté John Wall comme éventuellement un super coup, une renaissance possible.
C'est un super coup, il retourne en Houston.
Le pauvre, c'est un échec de plus dans sa longue carrière.
Un échec parce qu'il a loupé beaucoup de matchs déjà. Fragile physiquement.
Il n'a rien apporté à cette équipe.
Non. Et puis ça a coûté aussi à Reggie Jackson qui était beaucoup moins bon que la saison dernière. Mais le problème, c'est que quand Kawhi rejoue et Paul George rejoue et qu'ils sont au complet, ça enlève des munitions sur le poste de meneur de jeu.
Maintenant, tu parles de Reggie Jackson à Denver, c'est très bien.
C'est un très bon backup meneur, Reggie Jackson. Donc les Nuggets se sont renforcés aussi. Voilà. Après, si tu veux, il y a des perdants, hein, Pierrot.
Qui sont les perdants?
Moi, j'ai envie de parler de Portland, en fait, et Dame Lillard qui encore une fois, a vu la trade deadline passer et se dire, putain, ils m'ont mis personne encore, donc je vais passer...
Ils ont perdu Josh Hart, qui va les aider, d'ailleurs.
Ils récupèrent Cam Reddish chez Matisse Thybulle, mais bon, ça va pas, encore une fois, Dame Lillard, d'ailleurs, je ne vais pas être champion NBA.
Non, Thybulle, j'attendais une vanne, mais elle n'est pas venue.
Bon, et on l'a fait tous les mardis.
En même temps, Portland, c'est pas un prétendant au titre. Il aurait fallu un énorme trade.
Il y a quelques années, je crois qu'ils font une finale de conf, le Trail Blazers, quand Dame Lillard élimine OKC avec le bye-bye comme ça sur un tir à 3 points du matin. Mais sauf que Dame Lillard, il attend quelque chose. Il a encore mis 40 pions pour taper les Lakers. Il est au max du max de ce qu'il peut faire. Et j'ai bien l'impression que lui, son maillot sera retiré à Portland de l'Oregon, mais que la bagouze, il faudra qu'il l'achète en métaverse.
Sacha, est-ce qu'il y a une autre équipe dont on n'a pas parlé, gagnant ou perdant?
Forcément Brooklyn avec tout ce qu'ils perdent, c'est les grands perdants je pense de la trade deadline. Ils perdent leurs joueurs majeurs. Après, on sait que Brooklyn ça peut aussi créer des nouveaux cycles dans cette équipe. C'est comme ça qu'on avait découvert ce Brooklyn justement avec D'Angelo Russell, avec Joe Harris, etc.
On a commencé à découvrir Cam Thomas un peu aussi.
C'est ça, Cam Thomas justement qui émerge. Je pense que Dorian Finney-Smith c'était aussi une pierre angulaire du jeu de Dallas. Moi je trouve.
Moi
en
Dallas
tout cas,
perd beaucoup en perdant Finney-Smith pour moi.
Je trouve aussi vraiment le joueur qui est dans la justesse, qui apporte de l'attaque, la défense, toujours dans le non superflu, dans ce qu'il faut faire sur le terrain, et ça peut amener une nouvelle génération intéressante à Brooklyn. On sait qu'il y a déjà un pivot qui régale tout le monde, c'est Claxton, donc il peut se passer quelque chose, mais à court terme
on l'attendait plus, on a tout
compliqué. C'est jamais superflu d'avoir un Dorian dans son équipe, ça vous aviez déjà remarqué.
C'est vrai. Les Bulls, ils n'ont pas bougé, mais bon, donc, vu que l'équipe était mauvaise, voilà. Je considère un peu perdant, mais sauf si
équipe déséquilibrée, on a déjà parlé,
sauf si Westbrook arrive.
Il y a peut-être Utah qui est un peu perdant aussi, parce que du coup tu récupères Russell Westbrook, que tu vas forcément coupé dans la foulée, donc tu récupères pas grand chose. Tu perds Mike Conley, tu perds Nickel Alexander Walker, qui est un énorme prospect qui va évoluer à Minnesota avec Conley, donc avec un mentor. Ouais, je pense que Utah, Brooklyn, vraiment, on a les grands perdants.
Moi, je suis surpris du non-mouvement des Heat et des Raptors. Alors, les Raptors, ça a annoncé tout le monde est à vendre. Et finalement, personne n'a été vendu. Alors, ils ont testé le marché. Oui, on sait qu'en fin d'année, il y aura des transferts, évidemment. Mais sur cette trade deadline, c'est assez surprenant. Moi, ça m'a beaucoup surpris.
Après Masai Ujiri, je crois, a été gourmand pour OG Anunoby.
Anunoby, mais il a pris beaucoup de valeur du fait que KD arrive au Suns.
Et la vraie tendance aujourd'hui sur les trades, c'est que les équipes ont bazardé beaucoup de second tour de draft, en fait. Ah oui, et Masai Ujiri, ça n'intéressait pas d'avoir des second tours de draft. Après, Russell Westbrook est entre Chicago et Miami. Je pense que Miami, ça serait un bon fit pour Westbrook parce que Kylori, bon, il est plus que sur la jante, hein. Là, il n'y a plus de pneus, il n'y a plus rien. Et que Russell Westbrook, dans une équipe un petit peu d'underdog, avec Jimmy Butler, avec Bam Adebayo, bien coaché par Spoelstra, je pense que ça peut être un fit intéressant pour Westbrook.
Et puis, dernière chose, ce sont finalement les meilleures équipes qui n'avaient pas besoin de bouger, qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire Philadelphie, Boston, Milwaukee.
Quelques petits ajustements.
Des ajustements, ouais. Mais sans plus. À part Boston, peut-être, qui a perdu gros, qui va devoir trouver des solutions pour compenser l'absence de Jaylen Brown, non ?
Ouais, mais c'est Derrick White qui a été le joueur de la semaine, qui a fait une semaine monstrueuse sans Jaylen Brown. Il a mis 33-10 contre OKC, donc ils ont quand même des solutions sous la main.
Alors on va donc passer à la suite, et la suite, c'est la partie historique. Quel est le plus gros transfert en cours de saison, en tout cas celui qui a le plus marqué l'histoire?
Ah, trades, we all love them, we all hate them. Chris Paul to the Los Angeles Clippers, Kevin Love for Andrew Wiggins. Kevin Love was a top 10 player in Minnesota before getting traded to Cleveland. Shaquille O'Neal to the Miami Heat. Similar to the Kevin Love trade, Shaq joining the Miami Heat resulted in a championship just 2 years later. Jason Kidd for Stephon Marbury. Pau Gasol to the Los Angeles Lakers. This is one of the few trades involving an all-star that actually benefit both teams. James Harden to Houston.
Alors, quel est le transfert en cours de saison qui a le plus marqué l'histoire de la NBA? Là, on parle de joueurs majeurs. Hein. Il y a eu des Allen Iverson, Shaquille O'Neal, des Abdul-Jabbar, des Patrick Ewing. Qui as-tu choisi, mon cher Frédéric?
Moi, j'ai choisi Pau Gasol.
Pau Gasol.
En 2008. Alors, pour se rappeler un peu du contexte, en 2007, les Lakers sont éliminés pour la deuxième fois de suite au premier tour des playoffs par les Suns. Donc Kobe commence à en avoir un petit peu marre, il commence à avoir cette envie de partir, cette envie d'ailleurs. Finalement, il négocie un petit peu la possibilité de partir. On parle beaucoup de son départ aux Bulls, notamment. Et finalement, ça ne se fait pas parce qu'il voulait forcément inclure Deng et ne pas inclure Deng et que Deng reste à Chicago. Et ça fait partie des tractations. Donc c'est un peu au point mort. On lui propose Détroit, mais comme il a une no trade, comme Stéphane et moi, il refuse d'aller à Détroit. Et finalement, cette équipe en 2008 commence pas si mal que ça parce qu'il y a le retour de Fischer, Bynum qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et ils sont à 28-16. Et le 1er février se passe un trade incroyable qui surprend un petit peu tout le monde, la planète basket. Pau Gasol, qui vaut à peu près 20 points, 10 rebonds, va arriver à Los Angeles avec un deuxième tour de draft. Alors juste la compensation, Quayne Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKee, on va dire, et deux premiers tours de draft.
Donc que de la merde.
Ah non,
c'est pas grossier.
Non. Tu vois, là, t'es dur. Mais ils acquièrent aussi les droits sur Marc Gasol, qui joue encore en Espagne, par contre.
Super.
Donc ils savent pas exactement ce que ça va donner. Donc,
Pendant 10 ans, quoi.
C'est considéré comme un scandale à l'époque, hein, concrètement, parce que franchement, la contrepartie, comme tu as dit, ça représente un petit peu de la merde, on dirait, en tous les cas. Et Kobe est d'un seul coup beaucoup plus content. Il est content de sa franchise. Il adore les qualités et le QI basket de Pau Gasol. Et il a trouvé son vrai lieutenant. Il est impactant dès qu'il arrive. Ils font une finale perdue contre les Celtics. Et ils vont faire un back-to-back ensuite contre Orlando et contre les Celtics une nouvelle fois. Ce qui permettra à Kobe d'être 5 fois champion. Donc voilà, une fois de plus que le Shaq. Et reconnaître toutes ses qualités à ce joueur qui est Pau Gasol, sachant que Kobe, en plus, la première année d'arrivée de Gasol sera MVP la seule fois.
Et c'est une des plus grandes équipes des années 2000-2010, hein, on est bien d'accord. Steve ?
Ouais, écoute,
moi
ça va être très rapide. On est février 2011, les Cleveland Cavaliers ont gagné une dizaine de matchs. L'équipe, c'est une équipe coachée par Byron Scott avec comme leader Anton Jamison, 34 ans, Daniel Gibson, Mo Williams. Bref, c'est les cancres de la NBA. Et le directeur des opérations à l'époque, qui s'appelle Chris Grant, décide d'envoyer Mo Williams, le meilleur joueur de l'équipe, et Jamario Moon aux Clippers contre Baron Davis, le joueur préféré de Pierrot, et un premier tour de draft. draft. Bon, là, vous allez me dire, mais il est pourri ton truc. Sauf qu'avec l'un des pires bilans de la ligue, ils ont le droit de choisir le numéro 1 de la draft avec ce tour de draft qu'ils ont changé. Et en 2011, le numéro 1 de la draft est Kyrie Irving. Et le destin de la franchise prend une toute autre tournure, mon petit Pierrot. Le héros local, LeBron James, reviendra jouer à Cleveland justement pour s'associer à Kyrie. 2 ans après, ils sont en finale NBA contre les Warriors. 3 ans après, ils sont champions contre ces mêmes Warriors. Et Kyrie Irving à Cleveland, c'est 4 fois All-Star. Et bien entendu, l'énorme tir de la gagne au match 7 contre les Warriors.
Redonne-moi l'échange.
C'est Mo Williams et Jabari Moon qui vont.
Mo Williams qui était en fin de course.
Qui était en fin de
mais
course.
Mais qui était un bon joueur, un bon meneur. Bon joueur,
ouais, correct. Contre Baron Davis et un premier tour de draft.
Et donc, Davis qui n'a absolument rien fait à Cleveland, qui était lui aussi complètement en fin de course.
Qui était claqué, et le premier tour de draft, 4 mois après, c'est
bien vu. Alors, est-ce qu'il savait, oui, bien sûr, 4 mois avant, il savait qui était le prospect numéro 1.
Il savait que Kyrie Irving, qui était meneur de Duke, était fantastique, et eux, ils savaient qu'avec leur bilan, ils allaient avoir des chances d'avoir beaucoup de boules dans la roulette pour avoir le numéro 1 de la draft. Écoute, ben, ils ont une petite part de chance, une petite part de réussite.
Ils ont joué au loto, ils ont gagné.
Exactement.
Sacha, quel est le trade qui a le plus marqué l'histoire de la NBA en cours de saison?
Pour moi, c'est un trade qui s'est passé en 2019. On remet un petit peu le contexte en place, il y a Kawhi Leonard qui débarque du côté de Toronto, ça a été un trade majeur qui forcément a mis un gros favori à l'Est. Il n'y a pas forcément d'autres équipes qui peuvent s'aligner sur ce que proposent les Raptors, et il y a un trade qui va opérer sur la trade deadline que j'ai trouvé très 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 couillu. C'est le trade qui envoie Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles et un second tour de draft 2024 à Memphis pour récupérer Marc Gasol. On connaît un petit peu la suite de l'histoire. Enfin, Marc Gasol, à ce moment-là, c'est défenseur de l'année, c'est le titulaire solide d'une équipe de Memphis.
C'est pas le même que dans mon histoire. Hein, le Marc
Gasol. C'est le petit frère, justement, mais tu en as parlé, comme quoi c'était hyper important aussi pour Memphis de le récupérer, parce que Memphis est la meilleure défense NBA à ce moment-là. Il y a une vraie identité, c'est le grit and grind. C'est le pivot titulaire. C'est un pivot qui est moderne, qui se déplace très très bien et qui, dans un collectif, se font bien. Et c'est ce qui a apporté, je pense, à Toronto ce spacing et cette expérience qui leur a permis en playoff d'être injouable et de s'imposer et de prendre le titre face à Golden State. Bon oui, il y a eu des blessures du côté de Golden State, mais vraiment c'est gros opportunisme, c'est un all-in qui est comparable à ce qu'on a fait quand on ramène un petit peu Kevin Durant du côté de Phoenix, et ça a payé immédiatement. Donc moi je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple de, ça peut paraître être un panic move, mais ça l'est pas du tout, et tu prends le titre derrière, c'était très bien fait. Et puis Marc Gasol décline immédiatement après ce titre là donc vraiment c'était, en termes de timing, c'était au top.
Alors après, je vous rappelle quand même, dans les grands transferts en courte saison, qu'il y a eu des Will Chamberlain, des Kareem Abdul-Jabbar ou des Shaquille O'Neal. Hein.
Clyde Drexler aussi.
Donc il y en a eu d'autres. Vous êtes prêts pour le quiz spécial transfert, messieurs ?
C'est un bon quiz ?
C'est un bon quiz, c'est correct.
C'est correct.
Je vous annonce la meilleure charade de l'histoire de Basket Time.
Pourquoi elle t'a fait rigoler ?
J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier. C'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas ?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde.
Alors, la charade, c'est pas qu'elle m'a fait rire, c'est qu'elle est originale et pas facile à trouver. Voilà. Mais on va pas démarrer par une charade. C'est un quiz spécial transfert. D'abord l'actualité de nos petits Français à l'issue de cette période de transfert, où a atterri Olivier Sarr.
OKC,
avec un two-way contract. Il en est où, lui, Olivier Sarr?
Il a été longtemps blessé, il est revenu, repassé par la G League, et là, OKC, il était à Portland l'année dernière, et là, OKC, tout est contract. Écoute, ça, c'est un garçon qui va vivoter entre la NBA et la G League avant de retourner en Europe, je pense.
Ça va retourner en Europe, France, à Asvel dans un premier temps, et puis
Real Madrid, et voilà.
Si ça marche, ça décolle ailleurs. Donc, le premier point pour Stephen, je vais vous diffuser une interview qui est récente. Écoutez bien, pour deviner de qui il s'agit, hein, qui est en train de parler, écoutez bien les propos.
Oh man, I wasn't thinking about it actually until you just said it. I mean, obviously, it was a lot of emotions. We got a chance to spend some time together after the trade, you know what I mean?
Like,
we all was up in the hallway talking.
I'm excited,
man. I didn't know KD for a long time.
Michael Bridges. Hayton,
Dinwiddie,
Booker, Chris Paul. Oh, vous avez entendu le KD, j'ai pas eu de nouvelles de KD depuis longtemps, c'est Chris Paul. Alors là, on en a parlé tout à l'heure, Chris Paul qui réagit au transfert et qui n'est pas non plus d'un enthousiasme démesuré parce que son copain Michael Bridges s'en va. Donc attention.
Oui, la chimie d'équipe.
Vous avez entendu quand même, bon, il n'y a pas non plus un enthousiasme fou. Hein.
Ça voit les mots de corde.
Est-ce que tu as entendu la conf de presse de Michael Bridges après son premier match à Brooklyn? Il dit oui, moi j'ai mal au cœur d'être parti, Par contre, voilà, je me dis que je suis échangé contre KD, c'est mieux que d'être échangé contre des pimpins. Et peut-être que si j'avais été GM, peut-être que je me serais échangé aussi contre KD.
C'est bien, c'est lucide au moins. Donc ça fait 2 points en tout en attendant pour Steve. Alors qui a déclaré « Cette franchise a fait le pire trade de l'histoire de la NBA ». Il l'a dit en début de saison et il l'a répété récemment.
C'est un mec sur Rudy Gobert.
C'est un mec sur Rudy Gobert. Alors qui est ce mec ?
Charles Barkley.
Charles Barkley, vous le laissez dominer complètement par Stephen.
Non, pas que c'est
Sacha
je
et Fred, vous vous laissez complètement dominer par Stephen. Vous l'avez regardé, vous avez attendu la réponse.
Comment s'appelle la cible de chaque dans chaque Team Fou ?
Javel Magui.
Non, l'autre. Je ne sais plus son nom, mais je croyais que c'était lui qui l'a dit. Parce que lui aussi, il lance beaucoup de trades. Il avait parlé de Pau Gasol comme
donc
le pire.
Donc là, j'ai été obligé de vous réveiller parce que vous avez subi.
Ouais, là, c'est vrai qu'on subit.
Vous subissez donc 3-0. Oh, c'est maintenant ou jamais. Non, mais ça ne concerne pas, ça concerne Sacha et Fred. Donc c'est l'heure de la charade. Alors là, on va voir si votre cerveau est bien en place.
Bon.
Mon premier. Non,
il est jamais en place.
Pars pas comme ça, Fred. Tu dis oui, t'es conquérant. Oui, la charade, elle est pour moi.
Allez, vas-y.
La charade, elle est pour n'importe qui, la charade.
Mon premier, quoi.
Mon premier est un personnage de Rocky. Épinal est le chef-lieu de mon second. Mon troisième is very étroit.
Vosgheit.
La pleine saison de mon quatrième, bah c'est en ce moment.
Mickey.
Adrien.
On est en quelle saison là ?
Caris Sliver.
Pas du tout.
Adrian Wojnarowski.
Adrian Wojnarowski, absolument.
Les Vosges, Épinal.
Ouais, Adrian Vosges, prouvé, mais Vosges. Bon, Wojnarowski.
C'est pas mal.
Narrow, étroit, narrow.
Ah, narrow. Ah, oui.
Les deux skis en ce moment, la saison du ski en ce moment. Adrian Wojnarowski.
L'insider.
Mon tout a eu beaucoup de travail jusqu'au jeudi dernier, 21h. Quatrième point pour Stephen. On se rapproche, attention, d'un sweep. Une petite question sur l'histoire des transferts. On va voir si vous l'avez ou pas. En 2011, un blockbuster trade envoie Jason Richardson à Phoenix avec, de Phoenix à Orlando, pardon, avec Edo Turkoglu. Vince Carter fait le chemin inverse. OK. Question ? Quel est le français échangé dans ce trade ?
Pietrus.
Mike Pietrus, bravo. Sacha ne sera pas Fanny. Et donc, on va finir avec la question multipoint. On ne sait jamais, mais... Oh.
La confiance de Fred est vraiment.
C'est le problème de Fred, c'est la confiance en soi.
Alors que la question, c'est citez-moi le roster de Limoges en 2000 et quelques. C'est pour lui.
Je suis capable de ne pas trouver, c'est le pire.
C'est pas plus dur que ça, puisque c'est un roster qui a marqué l'histoire de la NBA. 19 ans, pratiquement jour pour jour, Rachid Wallace est échangé entre Atlanta et les Pistons. Les Pistons qui gagnent le titre face aux Lakers, qui éclatent les Lakers en finale 4-1. Vous allez me donner à tour de rôle les joueurs de cette équipe. Donc, puisqu'il y a un gros écart au point, voici la règle. Dès que quelqu'un est éliminé, les autres marquent des points pour les noms supplémentaires. Ça vous va comme règle ?
Oui.
Allez, on est parti. Alors, c'est Fred qui démarre. Là, c'est pas dur. Je viens de te donner le nom d'un mec. Voilà, Rachid Wallace.
Non, mais j'écoute quand même. Parce que là, je suis pas...
Le premier tour, Sacha.
Ben Wallace, du coup.
Ben Wallace, c'est bon. À toi, Steve.
Chauncey Billups.
Bon, les 5 premiers, normalement, ça va aller vite. Mais Fred.
Attends, juste de Détroit ou
juste de Détroit. Bah non, mais là, quand même, oh, cette équipe-là, tu me montres encore.
Hamilton.
Nous allons passer à Sacha.
Tayshaun Prince.
Ça va devenir plus compliqué à partir de maintenant. Stephen Brun.
Darko Milicic,
oh. Voilà. Ensuite, là, on va passer dans le plus dur. À toi, Fred. Tu peux encore en trouver un, hein. Peut-être même deux. C'est dur, hein, mais il y en a au moins un qui est un joueur qui a marqué l'histoire de la NBA. Bon, plus à Utah qu'à Détroit, mais peu importe.
Ouais, je ne vois pas du tout, là.
Les têtes de Fred sont incroyables.
Allez, on va donner un indice à Fred. De la même nationalité que Turkoglu.
Putain, je l'avais.
Ah. Tu l'avais ?
Mmh.
Un stretch.
Et qui jouait à ton poste. Bon, là, t'es sorti, là. Chut.
Non, je vois pas là.
Bah, tu vois pas. À toi, Sacha.
Bah, du coup, je pense qu'on parlait de Mehmet au cours.
Et voilà.
Ah,
un point pour Sacha. Les autres, là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le hardcore. Hein. Il y en a plein. Je sais même pas qui c'est.
Je vais tenter un mec, mais j'y crois pas. Darvin Ham.
Il y est, Darvin Ham. Voilà un mec, je ne sais absolument pas.
C'est le coach des Lakers, quoi.
Actuel, oui, c'est ça. On est d'accord. Bon, mais son, en tant que joueur, je n'en ai
qui
aucun souvenir.
Joue Bucks, le jeu des trois.
Alors, j'ai un peu peur. En sortie de banc, je vois un petit Antonio McDice.
Non, il n'y a pas d'Antonio McDice. Ah. Est-ce que tu en as d'autres à me proposer, Steve?
Eldon Campbell.
C'est bon, il est solide, très solide. Eldon Campbell, je m'as sorti.
Là, il a joué aux Lakers, Eldon Campbell.
Oui, ouais, non, mais là, oh, c'était il y a 15 ans, on s'en souvient plus de ces mecs-là.
Tu te rappelles qu'il soit dans cette équipe,
c'est
fort.
Il y a pas aussi.
Oui, Eldon Campbell, oui. Non.
Il en reste 3. Alors, il y en a un, je suppose que c'est lui, à moins que ce soit un homonyme, parce que c'est un nom très, très commun, mais un mec qui a un peu marqué, un meneur très fort, avec un bandeau, me semble-t-il. Mais j'ai peur que ce soit un homonyme.
Ah, il a joué à Chalon-Reims. Et non, c'est Mike James.
Mike James, absolument.
Ah oui.
Je l'accorde. Et il m'en reste 2.
Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est.
Corliss Williamson.
Ah oui, exact.
Et Lindsay Hunter.
Lindsay Hunter.
Ah,
ouais, Hunter, ah, Lindsay Hunter, ouais. Le frère de Rick.
Le frère de Rick Hunter, exactement. Bon, il n'y aura pas photo sur le spécial trade. C'est une victoire sans appel de Stephen Brun. Je vous rappelle que si vous en voulez encore, il y a un bonus track cette semaine à télécharger sur rmc.fr sur le record de LeBron James. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.